bonsoir à tous et à tous. Bienvenue donc dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, harcèlement sexuel, la loi est-elle à la hauteur? Moins spectaculaire que l'affaire Baupin, mais pas moins traumatisante pour la plaignante. Une femme de 45 ans, employée de mairie, a raconté hier, devant le tribunal correctionnel de Dijon, le harcèlement et les agressions sexuelles que lui aurait fait subir le premier magistrat de Chevigny-Saint-Sauveur. Selon le compte-rendu d'audience de France Bleu Bourgogne, le maire de cette petite ville l'aurait embrassé de force à plusieurs reprises, lui aurait peloté les seins et mis la main dans le pantalon. L'élu nie les faits. Le jugement sera rendu d'ici un mois. 2 ans de prison avec sursis ont été requis. 2 ans avec sursis, à première vue, cela paraît mince si les faits sont avérés. Mais en matière de harcèlement, les peines de prison ferme sont rares et les procès aussi d'ailleurs. Il n'y en aura pas au pénal dans le cas de Denis Baupin. Les faits reprochés aux députés sont prescrits puisque vieux de plus de 3 ans. Alors comme à chaque fois qu'une telle affaire éclate, il est question de modifier la loi. Cette fois, en allongeant le délai de prescription, la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, veut la faire porter à 6 ans. Une proposition de loi allant dans ce sens est d'ailleurs en cours de discussion au Parlement. On ne peut pourtant pas dire que le droit français soit démuni face à cette question du harcèlement. Depuis l'introduction de cette notion dans le Code pénal en 1992, la loi a été modifiée et renforcée à plusieurs reprises. Une inflation législative pas forcément efficace. Alors harcèlement sexuel, la loi est-elle à la hauteur? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, 3 invités, Marilyn Baldeck. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la déléguée générale de l'AFVT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Vous étiez déjà venue dans cette émission il y a tout juste 4 ans pour répondre à la question suivante. Faut-il pénaliser le harcèlement sexuel? On était à l'époque dans une sorte de vide juridique puisque le Conseil constitutionnel avait retoqué la loi sur
le délit.
Voilà, le délit. Vous avez raison de préciser le délit sur le harcèlement sexuel et on attendait justement un nouveau texte législatif qui devait intervenir l'été qui allait suivre. Je précise d'ailleurs que vous étiez hier au tribunal correctionnel de Dijon pour suivre l'affaire que j'évoquais en tout début d'émission. Pour discuter avec vous, Audrey Darsonville, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit pénal à l'université Lille 2. Vous y dirigez le master études pénales et criminelles et sorti sous votre direction l'an dernier aux presses universitaires de Nancy, la loi pénale et le sexe. Et puis troisième invité, Laurent Gamet, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat associé pour le cabinet Flichy-Granger. Vous y êtes spécialisé dans les contentieux du travail. Vous êtes par ailleurs enseignant-chercheur à Paris 13, l'université, où vous y dirigez le master de droit social. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter l'affaire Baupin, en tout cas le fond de cette affaire, parce qu'il y a évidemment les réserves qui sont liées à la présomption d'innocence. Mais Marilyn Baldeck, par rapport aux faits qui sont décrits par ces femmes, qui ont donc pris la parole, est-ce que vous diriez que ce sont des faits qui sont d'une certaine manière banals ou en tout cas très caractéristiques de ce qui constitue en général les affaires de harcèlement sexuel?
En fait, le harcèlement sexuel a cette particularité qu'il est extrêmement protéiforme, donc c'est difficile de dire que ça ressemble à ce que les femmes dénoncent quand elles dénoncent du harcèlement sexuel, avec la précision que certaines de ces femmes ont aussi dénoncé des agressions sexuelles. Donc oui, ça ressemble à ce que certaines femmes dénoncent, notamment quand elles saisissent l'association. Et à certains égards, non, ça ne ressemble pas. Ça peut prendre d'autres formes.
Audrey Darsonville, le fait que ça se passe dans une relation de pouvoir, et d'ailleurs au sein du pouvoir, est-ce que ça peut être une caractéristique qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un lien de subordination hiérarchique entre les plaignantes et les accusés?
Alors, dans le harcèlement sexuel, ce rapport de hiérarchie ou de domination sociale, il est tout à fait prégnant, puisque justement, l'auteur aura plus de facilité à imposer des comportements sexuels de par cette relation hiérarchique. Mais moi, je pense que, alors, l'affaire de Denis Baupin, c'est compliqué d'en parler puisqu'effectivement la présomption d'innocence s'applique. Mais je trouve que ce qui est à l'inverse très caractéristique, c'est que les plaignantes sont des députées, c'est-à-dire des victimes qui ont parfaitement connaissance de la loi. Et je pense que ce qui est intéressant de cette affaire, c'est surtout au-delà d'un rapport de domination qui existe peut-être moins dans ce monde politique, ce sont des femmes indépendantes financièrement et autonomes, c'est plus la difficulté qu'elles ont eue à parler, puisque les faits datent de 20 ans. Donc ça, c'est très intéressant, c'est que ça prouve que au-delà de l'aptitude personnelle des victimes, de leur connaissance de la loi, il y a une vraie difficulté pour les plaignantes à parler du harcèlement sexuel.
Je poursuis mon tour de table. Laurent Gamet, je vous laisse réagir à ce qui vient d'être dit.
Oui, sur les faits, du moins ce qu'en dit la presse. Disons que c'est une forme assez aboutie de harcèlement sexuel, parce que avoir à la fois des SMS, des paroles, des attouchements sexuels, disons que dans l'entreprise, on voit bien sûr du harcèlement sexuel, mais en général, sans doute, avec des comportements qui n'ont pas toutes ces caractéristiques.
Je reviens sur cette question de la subordination hiérarchique. Donc, c'est vrai que vous aviez raison de préciser, Audrey d'Arsonville, c'est qu'on n'est pas exactement dans cette dimension-là avec l'affaire Denis Baupin. Marilyn Baldeck, est-ce que, en tout cas, aujourd'hui, quand il y a, on va dire, une accusation de harcèlement sexuel, il faut qu'il y ait forcément cette idée de subordination, ou bien est-ce que ça peut être justement d'égal à égal ? Et est-ce que ça, c'est quelque chose de récent, disons ?
Ça n'est plus une condition légale. L'abus d'autorité n'est plus un élément constitutif de l'infraction de harcèlement sexuel depuis 2002. Néanmoins, en tout cas dans les dossiers qui sont suivis par l'association, le supérieur hiérarchique ou l'employeur directement est dans 80% des cas la personne qui est mise en cause. Les 20% qui restent sont pour l'essentiel des collègues, mais ça peut être des fournisseurs ou des clients de l'entreprise, sont en général, presque toujours, des salariés qui ont néanmoins un pouvoir sur les salariés, sur leurs collègues de même niveau hiérarchique, que ce pouvoir soit tiré de l'ancienneté ou par exemple d'un mandat syndical, ça arrive assez souvent, ou d'autres types de facteurs.
Ça n'est plus une condition légale l'abus d'autorité, depuis quand ça ne l'est plus ?
Depuis 2002.
Depuis 2002, ce qui devrait peut-être, normalement, dans les procédures, se traduire par une augmentation du nombre de cas. Or, j'ai lu que dans une interview que vous avez donnée récemment, Laurent Gamet, au journal L'Opinion, vous disiez notre cabinet compte 80 avocats spécialisés en droit social, donc est amené à traiter ce genre de cas. Or, on ne traite que 5 dossiers de harcèlement sexuel par an. Comment ça se fait ?
Oui, alors, dire cela, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Il y a évidemment, compte tenu des millions de salariés concernés, du harcèlement sexuel. Simplement, ce qui est compliqué dans le harcèlement sexuel, c'est de le dénoncer. C'est de le dénoncer à la fois pour la victime, mais de le dénoncer aussi pour les autres qui ne le voient pas nécessairement. Pourquoi ? Parce que, autant le harcèlement moral, par exemple, c'est un élément caractéristique qui se fait au vu et au su de tout le monde. On voit que le collègue, il est placardisé, on voit qu'il a été, qu'il n'est plus, on voit comment on s'adresse à lui. Or, le harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel qui est fait dans l'intimité, qui est fait par les mots glissés dans l'oreille, c'est quelque chose de compliqué à voir, qu'on ne voit pas en général, et pour la victime, c'est quelque chose de compliqué à dénoncer. Et dans les cas que j'ai vus, à chaque fois, la victime avait un sentiment de culpabilité, à la fois que ce soit tombé sur elle, difficulté à le dénoncer aussi, on pourrait revenir, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément un relais du côté de la représentation du personnel, notamment une représentation syndicale assez masculine, on va dire, et pas forcément très à l'écoute de ce genre de questions, avec peut-être aussi un comportement du style de dire « oui, bon, c'est comme ça, ça passera », ou d'essayer de faire face, et puis souvent, la femme abandonne et peut-être part de l'entreprise pour fuir la situation. Bon, après, la question sera de déterminer, on pourrait y revenir aussi, sur qu'est-ce que le harcèlement sexuel, à partir de quel moment on parle du harcèlement sexuel, parce qu'on en a parlé de comportement, voilà. Mais par rapport à ce que la loi définit comme étant du harcèlement sexuel, que peuvent être des propos à connotation sexuelle, par exemple, il y a peut-être aussi de la graduation à faire sur ce point.
Audrey d'Arsonville, est-ce que vous partagez ce constat qui vient d'être fait par Laurent Gamet, c'est-à-dire sur cette difficulté de parler et de trouver des relais dans l'entreprise, puisque là, on parle du harcèlement sexuel dans un cadre professionnel. Et est-ce que la loi, ou les lois en tout cas, qui ont été prises successivement, ne permettent pas de débloquer justement cette prise de parole et cette prise de relais, disons
Alors moi, je partage tout à fait l'avis de Maître Gamet. On a statistiquement très peu d'affaires de harcèlement sexuel qui sont jugées chaque année, ce qui reflète pas du tout la réalité du harcèlement. Mais je pense que le harcèlement sexuel, il est extrêmement difficile de déposer plainte parce qu'il est extrêmement difficile pour les victimes d'abord d'avoir véritablement la perception, la réalité du harcèlement sexuel. Ça peut prendre beaucoup de temps. On le voit dans l'affaire Baupin, ça a mis 20 ans à ressortir. Et que il n'est pas évident que les victimes aient nécessairement le souhait de passer par la voie pénale. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que actuellement, dans l'affaire Baupin, on entend beaucoup un discours qui est de dire « Mais pourquoi elles n'ont pas déposé plainte plus tôt ? Maintenant, c'est prescrit, c'est trop tard. » Le choix de déposer plainte, moi, je pense qu'il est un choix de dernier recours pour une victime. Il faut quand même avoir conscience que le recours au droit pénal, il est un parcours du combattant pour la victime. C'est-à-dire que arriver jusqu'à une condamnation de l'agresseur, c'est extrêmement difficile. On a de très gros problèmes de preuves, il faut rapporter des preuves d'un harcèlement, donc c'est difficile et donc je crois que l'accès à la voie judiciaire, il n'est pas forcément l'accès qui est le premier choisi par les victimes qui ont surtout envie que le harcèlement cesse et les biais en interne dans l'entreprise dont on parlait sont peut-être de ce point de vue-là plus efficaces qu'un recours à la voie pénale.
Est-ce que c'est quelque chose que vous favorisez, vous, Marilyn Baldeck, à la VFT, c'est-à-dire le recours à la voie pénale, ou bien est-ce que vous essayez plutôt de, quand les personnes viennent vous voir et vous disent, bah voilà, moi je suis victime de harcèlement sexuel, est-ce que vous essayez aussi de favoriser d'autres voies qui sont peut-être et moins traumatisantes et plus efficaces.
Alors si d'un côté nous avons toujours été partisanes de l'existence d'un délit pénal de harcèlement sexuel, parce que nous considérons que ces agissements troublent l'ordre public, néanmoins quand les femmes viennent nous voir, nous ne les poussons pas à la plainte pénale. Je partage tout à fait ce qu'il vient de dire sur le fait que je trouve vraiment malhonnête qu'on reproche à ces femmes de n'avoir pas porté plainte au pénal. Encore faudrait-il que la voie pénale soit une voie efficace pour lutter contre les violences faites aux femmes en général, les violences sexuelles en particulier. Et c'est absolument loin d'être le cas. Quand elles veulent porter plainte au pénal, et c'est un réflexe qu'ont les femmes, quand elles sont mises dehors de l'entreprise, elles ont envie que les responsabilités soient posées, toutes les responsabilités, celle du harceleur, celle de l'employeur. Donc une double responsabilité pénale et sociale pour la mise en cause de la responsabilité de l'employeur. Dans ce cas-là, évidemment, nous, on intervient à leur côté, ce qui était le cas hier, puisque donc je représentais la constitution de partie civile de l'association auprès de cette femme à Dijon.
Cette femme, justement, dont on évoquait l'affaire en tout début d'émission, est-ce qu'elle a porté plainte justement au pénal parce que c'était une forme pour elle d'ultime recours, parce que les autres recours et les autres voies n'avaient pas fonctionné? Et comment est-ce que c'est vécu justement par...
Cette femme dénonçait des faits excessivement graves. Donc il y a aussi un moment où il y a des agissements qui troublent tellement considérablement l'ordre public que ça devient difficile, y compris pour les victimes, de ne pas porter plainte. Surtout, voilà, il y a souvent des éléments déclencheurs qui sont très particuliers. Là, il se trouve que dans son cas, elle est agente territoriale et que donc la voie sociale, celle du conseil de prud'homme, ne lui est pas ouverte et que c'est celle du tribunal administratif qui est un parcours de la combattante pour les agentes victimes de harcèlement sexuel qui est simplement hallucinant. En général, elles renoncent à la voie administrative et si elles ont envie d'agir en justice, il ne reste que le pénal.
Laurent Gamet, quand il y a des personnes qui viennent vous trouver, vous, pour être défendu par votre cabinet, quels sont justement vous, les conseils que vous donnez? Quelle est la voie que vous privilégiez? Est-ce que c'est le pénal ou est-ce que ce sont d'autres voies? Depuis quelques mois, il y a notamment le code du travail qui a été modifié pour permettre aussi de traiter de ces affaires. Je ne sais pas si vous, d'ailleurs, vous considérerez que ce qui a été, on va dire, rédigé comme article de loi dans le Code du travail permet de répondre d'une façon un petit peu différente à ces questions du harcèlement sexuel. Mais comment est-ce que vous, vous faites ?
Alors moi, je suis conseil d'entreprise, donc je peux vous dire le point de vue de l'entreprise lorsqu'on est confronté à une situation de dénonciation de harcèlement moral.
Et ça veut dire quoi d'ailleurs, juste conseil d'entreprise? Ça veut dire que vous pouvez être conseil d'une personne qui est accusée de harcèlement sexuel?
Non, plutôt d'une entreprise qui fait face à la dénonciation d'un salarié d'un harcèlement sexuel commis par un autre salarié, en général le supérieur hiérarchique. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Le premier point c'est d'essayer de tirer les choses au clair pour savoir distinguer exactement ce qui s'est passé, quels sont les faits qui sont dénoncés, pour voir ensuite s'ils sont vrais. Mais l'entreprise se trouve immédiatement confrontée à une difficulté, qui est que l'un dit « il m'a harcelé » et l'autre crie « jamais je ne l'ai harcelé ». Et la difficulté de l'entreprise à ce moment-là, c'est de faire la part de vérité, ce qui peut être très compliqué, et ensuite de prendre les décisions qui s'imposent. Sur ce point, je crois aussi, au-delà du droit, c'est qu'il y a une sorte d'ADN de l'entreprise sur le sujet. C'est est-ce que l'entreprise, elle tolère ou elle ne tolère pas le harcèlement sexuel? Et vous savez, il y a une expression, on dit à la campagne, les escaliers se récurent par le haut. Et donc, quand le patron, le grand patron ou la grande patronne dit « il n'y aura pas de harcèlement sexuel dans l'entreprise » et le premier qui commet un harcèlement sexuel, il est mis dehors, en général, les gens se comportent mieux que quand, à chaque dénonciation de harcèlement sexuel, on rigole ou on néglige la dénonciation.
Alors, je reviens un petit peu justement à la question que je posais tout à l'heure à Audrey d'Arsonville, mais je vous la repose d'ailleurs à tous les trois. Est-ce que vous avez le sentiment que la loi évoluant, et ce musclant, disons, sur ces questions de harcèlement sexuel, il y a une pédagogie qui est faite au niveau des entreprises et que ça change quand même les comportements, Laurent Gamet?
Moi, je crois que la loi ne change rien. Parce que d'abord, la loi est rédigée en des termes absolument incompréhensibles. Tout le monde sait ce que c'est que le harcèlement sexuel de façon plus ou moins intuitive. C'est vraiment l'affirmation. Alors, soit il y a une prise de conscience ou pas de prise de conscience. Et une fois qu'il y a une prise de conscience, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport au harceleur sexuel. Étant précisé que dans une entreprise de 10 000 salariés, vous avez nécessairement des comportements harcelants. C'est un effet purement statistique. Mais qu'est-ce qu'on fait dès que quelqu'un commet ces faits qui sont, du moins on a acquis la conviction qu'ils sont vrais, est-ce qu'on le licencie? Quand bien même ce serait un grand contributeur, quand bien même ce serait un grand patron qui ferait gagner beaucoup d'argent? Ou au contraire, on fait une balance des intérêts en présence. Là, il y a vraiment une affirmation politique, au sens premier du terme, de l'entreprise à avoir sur ce point.
Bon, la loi, elle prévoit 2 ans maximum d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Là aussi, c'est une somme maximum. Ça n'a pas de vertu pédagogique, Audrey d'Arsonville? Parce que la loi elle est censée pouvoir quand même avoir ce genre de vertu.
Elle est censée, et j'ose espérer, que la loi pénale a quand même une vertu pédagogique. C'est-à-dire que le principe même de la loi pénale, c'est de dire à la société quels sont les interdits. C'est de dire ce qui est le licite et ce qui est l'illicite. Et c'est également la fonction de la loi pénale, c'est de dire quelles sont les valeurs sociales que nous protégeons, et que nous protégeons par le recours à des peines éventuellement d'emprisonnement. Donc dans le harcèlement sexuel, oui, il y a une vertu pédagogique qui est de dire aux citoyens que c'est un comportement qui est un comportement prohibé. Le gros problème auquel on est confronté, c'était déjà le cas avant et ça l'est, je pense, encore plus aujourd'hui, c'est que la loi telle qu'elle est rédigée est devenue extrêmement compliquée à comprendre. Et donc, en ne permettant pas une définition assez claire du harcèlement sexuel, elle rend évidemment pour les victimes le dépôt de plainte et la possibilité d'avoir une procédure pénale encore plus complexe. La loi de 2012, elle a été, de ce point de vue-là, extrêmement mal rédigée. Et alors, j'insisterai juste... J'ai imprimé le texte de loi.
Je l'ai imprimé aussi.
Il fait 15 lignes, ce qui déjà pour une incrimination est assez aberrant.
Est-ce que vous pouvez le citer par cœur sans regarder votre texte?
Non.
Qui est un signe que la loi est mal rédigée.
Moi, je vais le faire, tiens, si vous voulez bien. Alors, c'est l'article 222.33 du code pénal. Là, pour l'instant, j'ai juste. Le harcèlement sexuel, alors partie 1. Ou article, je ne sais pas comment il faut dire, article 1, ouais. Partie 1. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Là, ça me semble assez compréhensible.
On a vraiment l'impression que c'est du suédois passé par Google Translation. Hein.
Bon, partie 2. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Bon, j'ai bien conscience que pour nos auditeurs, entendre juste ce texte comme ça, sans l'avoir sous les yeux, c'est un petit peu compliqué. Mais juste avant de revenir vers nos deux juristes, Marilyn Baldeck, vous, il y a 4 ans, vous réclamiez justement le fait qu'il y ait une pénalisation du harcèlement sexuel. Est-ce que la rédaction de cette loi, vous, elle vous satisfait? Ou bien est-ce que vous trouvez aussi que c'est tellement flou que c'est trop compliqué à appliquer?
Je ne pense pas que la loi soit floue. Alors le premièrement de la loi est peut-être un peu laborieux, certes, dans tous ces éléments. N'empêche que à appliquer, que ce soit devant une juridiction pénale ou devant une juridiction sociale, finalement, on s'y retrouve assez bien parce que ça correspond à la réalité de ce que les victimes dénoncent. Alors il y a beaucoup d'éléments constitutifs à caractériser et donc c'est aussi un handicap. On dit que le droit a été musclé. C'est vrai à certains égards, ce n'est pas vrai à d'autres, puisqu'il faut caractériser plus d'éléments constitutifs qu'autrefois. En revanche, le deuxièmement, je suis d'accord avec mes co-invités, c'est excessivement compliqué. De mon point de vue, en plus, c'est vraiment une perche tendue à la déqualification d'agression sexuelle, de tentative de viol, voire on flirte avec le proxénétisme dans cette définition, puisqu'on peut rechercher un acte sexuel à son profit ou au profit d'un tiers. Et c'est une partie du dispositif que nous avions abondamment critiqué à l'époque du vote de la loi.
Audrey Darsonville, vous vouliez intervenir justement alors sur cette rédaction un petit peu difficile justement à saisir de la loi.
Alors simplement pour préciser que la mauvaise rédaction d'une loi, ça n'est pas qu'un problème de juriste qui analyse les lois. Le gros problème d'un texte de loi qui est mal rédigé, c'est que le juge va devoir l'appliquer. Or, s'il ne comprend pas exactement ce que veut dire le législateur, chaque juge va l'appliquer comme il le comprend. Ce qui crée quand même une grosse rupture d'égalité entre les justiciables parce que le juge de Lille ne va pas forcément le comprendre comme le juge de Paris ou comme le juge de Marseille. Donc il faut bien comprendre qu'un texte mal rédigé, c'est pas simplement un problème de légistique, c'est un vrai problème pour les citoyens. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, sur le texte, je le trouve assez incompréhensible. Vous venez de le relire, donc pour être un peu clair, si je peux reprendre, donc il y a deux parties. La première partie renvoie à peu près au cas de harcèlement sexuel qui était déjà incriminé avant, à la différence quand même que déjà les terminologies sont un peu étonnantes. Un comportement à connotation sexuelle, c'est quand même pas évident de comprendre ce que ça peut être. Et qu'en plus, n'est plus exigée la finalité sexuelle. C'est-à-dire c'est un acte sexuel qui doit porter atteinte à la dignité. Ce qui est quand même pas exactement la même chose. Et puis le second aspect, alors là je rejoins totalement ce que vous venez de dire Madame Baldeck, c'est que c'est extrêmement grave puisque je pense que le bon sens commun, c'est quand même que le harcèlement par nature, c'est la répétition d'un acte. Harceler, c'est répéter plusieurs fois l'acte. Or, ce second paragraphe autorise la sanction d'un acte unique.
Voilà, est assimilé au harcèlement sexuel le fait même non répété.
Voilà. Donc un acte unique peut être du harcèlement, ce qui déjà dans la langue française peut un petit peu surprendre, mais un acte unique peut être du harcèlement et effectivement là on a tendu une énorme perche à une disqualification. Pourquoi ? Parce que un acte qui serait plus grave, à savoir une agression sexuelle dont on a parlé notamment dans l'affaire de Monsieur Baupin, eh bien un acte d'agression sexuelle c'est un acte grave qui a une finalité sexuelle, donc risque d'être sous-qualifié en harcèlement sexuel. Je vais être très pratique. L'agression sexuelle fait encourir 5 ans d'emprisonnement. Le harcèlement, c'est 2 ans d'emprisonnement. Donc là, vous favorisez une sous-qualification qui est très néfaste pour les victimes.
Quand on vous a appelé Audrey Darsonville pour préparer l'émission, c'est Céline Leclerc qui l'a fait, vous lui avez dit qu'on pouvait penser que le malaise du Parlement pour légiférer en matière d'infraction sexuelle était une cause plausible du surinvestissement législatif et justement de ces rédactions un petit peu floues. C'est-à-dire vous pensez que dans le monde politique, on est mal à l'aise avec ces questions et donc on légifère mais sans vraiment réfléchir en bon juriste.
Je ne peux pas l'affirmer.
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse. Mais deux choses là sur le harcèlement sexuel. Il y a une pression sur le Parlement en 2012 après la censure constitutionnelle qui a été incroyable. C'est-à-dire qu'en 3 mois, on a voté un texte de loi, ce qui n'arrive jamais. Il a été fait dans la précipitation parce que tout le monde a hurlé au scandale quand le Conseil constitutionnel n'a fait quand même que ce qui n'était que son travail, censurer un travail législatif qui avait été mal fait au départ. Donc il y a eu une précipitation absolue pour rédiger un nouveau texte sur le harcèlement sexuel. De façon plus générale, je pense que le surinvestissement législatif en matière sexuelle est effectivement des formulations qui sont toujours extrêmement alambiquées sur les infractions sexuelles. Moi, j'émets l'hypothèse que ça peut s'expliquer notamment par la composition très masculine du Parlement et encore plus du Sénat.
Laurent Gamet.
Oui, alors sur la rédaction du texte, moi je suis encore un peu plus sévère parce que quand on parle de propos à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité. Moi, j'ai beau retourner l'expression dans tous les sens, je vois pas où est la limite. Est-ce que la mauvaise blague rentre dans le champ de la qualification et peut vous conduire en prison ? Il y a quand même pour nous les juristes, et c'est l'état de droit qui est en question, ce qu'on appelle le principe de l'égalité des textes qui vient d'être rappelé, c'est-à-dire qu'un texte pénal, il doit être clair et compréhensible par tous. Le vol et la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, tout le monde comprend. Alors que ce texte, il est incompréhensible. Donc là, il y a un véritable problème, et peut-être d'ailleurs qu'il n'y a pas de consensus sur là où commence ce qui est admis et ce qui n'est pas admis, là où commence ce qui doit être puni pénalement, et la mauvaise blague, même lourdingue, faite par une personne ne doit pas nécessairement le conduire à avoir une sanction pénale.
Mais ça veut dire qu'il faudrait que la loi définisse beaucoup plus clairement les actes qui sont répréhensibles, mais auquel cas votre article de loi, il ne ferait pas 15 lignes, il en ferait beaucoup plus.
Oui, on peut trouver une rédaction qui soit peut-être, parce que cette rédaction est quand même directement inspirée de directives européennes, notamment de directives en matière de travail, et on voit que la situation intimidante ou la situation hostile ou offensante, c'est quand même pas du vocabulaire courant en langue française. Les mots, bien sûr, un sens pris individuellement, mais l'expression, elle renvoie à une terminologie anglo-saxonne qui est arrivée par la directive, qui a ensuite été transposée dans notre législation, mais j'ai toujours cette impression que ce texte, on a du mal à se l'approprier, on a du mal à le comprendre, ce qui est un problème.
Est-ce que ce texte, pour vous, Marilyn Baldeck, il autorise, donc je rappelle, hein, ça date de 2012, hein, de l'été 2012, il autorise une surinterprétation des faits qui sont dénoncés, voire une dérive à l'américaine, parce que alors en général, quand on parle de harcèlement sexuel au travail, on renvoie toujours à cet exemple, peut-être fantasmé d'ailleurs, hein, de salariés aux États-Unis qui, pour un regard un peu trop appuyé, vont dénoncer des faits en justice. Est-ce qu'en tout cas, ça pose problème, cette imprécision-là.
Je crois, hélas, que dans 20 ans, on nous posera toujours la même question des dérives à l'américaine. J'espère quand même qu'on en sortira un jour. Non, je crois que vraiment...
Parce qu'elles n'existent pas ou parce qu'elles sont...
Écoutez, quand on regarde...
Parce qu'on en est encore très
loin. Quand on regarde les agissements qui sont sanctionnés, que ce soit par le droit pénal ou par le droit civil, au vis-à-vis des différentes dispositions relatives au harcèlement sexuel, il suffit vraiment d'ouvrir Légifrance pour comprendre que il n'y a pas de surenchère. Prétendue surenchère à l'américaine, c'est toujours excessivement grave. Il y a toujours des personnes qui ont perdu leur travail, qui ont une santé qui est devenue complètement délabrée. Et il y a toujours, de mon point de vue, un trouble à l'ordre public. On n'a jamais vu un juge pénal condamner une personne pour une blague lourdingue, ou même pour deux blagues lourdingues d'ailleurs, même quand les agissements sont répétés. Et du reste, on n'a jamais vu une femme porter plainte pour ça.
Et en matière d'ailleurs de harcèlement sexuel, depuis que la loi est passée, quelle a été la condamnation la plus importante qui a été prononcée? Est-ce qu'il y a eu de la prison ferme? Je disais tout à l'heure que c'était rare qu'il y ait de la prison ferme. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas?
Il y en a eu au moins deux à ma connaissance, qui sont tous les deux issus de la juridiction versaillaise, tribunal correctionnel de Versailles, qui a condamné à une peine d'emprisonnement ferme le directeur de la communication de la mairie de Versailles, et également un chercheur de l'INRA qui a été condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme, dont 9 avec sursis, pour harcèlement sexuel, au terme d'un arrêt qui pour nous est exemplaire de ce que les juges ont la capacité de faire quand ils appliquent de manière correcte le premièrement de l'article 222.33 du code pénal, où ils ont pris le soin vraiment de caractériser de manière minutieuse chacun des éléments constitutifs de l'infraction. Et c'est un exemple, et il y en a sans doute d'autres, qui permettent de montrer qu'en réalité, cette définition, elle est applicable et potentiellement efficace.
C'est vrai que finalement, pour juger de l'efficacité d'une loi, le plus simple, c'est quand même justement de regarder quelles sont et les procédures qui sont suivies et les décisions qui sont prises. Est-ce que vous ne vous inquiétez pas un petit peu trop, Laurent Gamet, par rapport à cette mauvaise rédaction? Parce qu'on voit bien que dans les faits, et c'est d'ailleurs vous qui le disiez tout à l'heure, il y a très peu de cas qui se retrouvent au pénal.
Exactement, il y a une critique théorique qui est faite sur ce texte et nous la ferons parce qu'elle doit être faite. Mais après, en pratique, les comportements, comme cela vient d'être dit, qui sont traduits devant les tribunaux, sont des comportements où la question ne se pose même pas de la qualification. La seule question, c'est la question de la preuve. Et la preuve est vraiment une question essentielle.
Et alors justement, sur cette question de la preuve, est-ce qu'on est dans une façon particulière d'aborder les choses parce qu'on est dans le cadre d'affaires sexuelles ?
Oui, alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse où vous auriez quelqu'un qui signe son crime, si je puis dire, et notamment qui envoie des SMS que la plaignante garde. Bon, bah là, la preuve, elle est constituée. Ou bien des personnes qui auraient été témoins de quelque chose qui s'est passé et qui veulent bien en témoigner, on a la preuve. Mais souvent le principal problème, et là on le voit non pas en matière de droit pénal, mais en matière de droit du travail et dans l'entreprise, c'est quand la femme dit « voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a proposé ». Et comment on peut apporter la preuve de cela ? Et je vous raconte une histoire, si vous me laissez une minute, d'une salariée qui vient dire à l'employeur « Depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, je suis victime de harcèlement sexuel de la part de mon chef. Voilà ce qu'il me dit, des propos salaces. Voilà ce qu'il me propose. » Et elle dit « Je n'ai pas d'autre preuve que ce que je vous dis. Mais ça fait 15 ans que je suis dans l'entreprise, je n'ai jamais posé problème. Pourquoi j'inventerais cette histoire ? Quel serait le mobile ? Mais... je l'ai dit à mes amis qui, voilà, elles le témoignent. Depuis 18 mois, je leur parle le soir au téléphone, je suis en pleurs, etc. Mais j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui fait une attestation pour dire que j'ai perdu 15 kilos, et d'ailleurs, vous m'avez vu maigrir, et il relate que je lui ai parlé de ses problèmes de harcèlement sexuel, et d'ailleurs, il m'avait conseillé de les dénoncer, ce que je n'ai pas fait. Mais plusieurs personnes m'ont vu à la pause aller dans ma voiture où je pleurais. Mais, etc. L'entreprise acquiert la conviction de ce qu'il y a un harcèlement sexuel. Et donc nous décidons de licencier le salarié pour faute grave. Le salarié conteste. Employeur, c'est à nous d'apporter la preuve de cette faute grave. Que nous dit le tribunal ? Eh bien, il nous dit « vous n'avez pas la preuve formelle du harcèlement sexuel » et dès lors l'employeur est condamné à une somme conséquente au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc voilà qui peut inviter les entreprises à réfléchir et voilà qui devrait inviter aussi les juges à considérer qu'en matière de harcèlement sexuel, il n'y a pas de preuve formelle, comme on dit. Il peut y avoir des indices précis, graves et concordants qui peuvent constituer, cela étant une preuve, mais que les tribunaux, et notamment les prud'hommes, ont beaucoup de mal à accepter.
Mais alors moi, il y avait un élément qui me semblait assez compliqué d'ailleurs à comprendre dans ce dossier. Audrey d'Arsonville, vous allez sans doute pouvoir m'éclairer, qui avait trait à l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire j'ai cru comprendre qu'à un moment donné de la procédure, c'était à la personne qui était accusée d'apporter aussi derrière la preuve qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Ou est-ce que j'ai mal compris le dispositif légal.
Dans le système procédural français, la preuve est à la charge de l'accusation, c'est-à-dire que c'est au parquet de rapporter la preuve de la réalité des faits qui sont dénoncés par la victime. La personne qui est mise en cause, elle est présumée innocente jusqu'à sa déclaration de culpabilité. Et effectivement, et c'est un peu le propre dans toutes les affaires sexuelles, c'est que dans la grande majorité des cas, harcèlement sexuel ou autre violence sexuelle, il y a véritablement l'auteur des faits nie systématiquement, ce qui rend la preuve très difficile, puisque comme vous venez de le dire Maître Gamet, la plupart du temps, c'est des éléments factuels rapportés par la victime, mais on a du mal à établir une véritable preuve. L'auteur n'a pas à démontrer son innocence.
Est-ce que ça veut innocent. Dire en tout cas qu'il pourrait y avoir nécessité à donner un autre statut à la preuve dans ce genre d'affaires. Pas totalement révolutionner le droit français non plus, hein, mais
ce serait très dangereux parce que ce serait quand même remettre l'un des fondements d'une justice démocratique qui est quand même fondée sur le principe de la présomption d'innocence. Il me semblerait extrêmement dangereux de créer un système dérogatoire dans l'hypothèse uniquement des infractions sexuelles.
Et de devoir prouver un fait négatif, c'est une preuve impossible. De devoir prouver que je n'ai pas dit ça à une personne, comment voulez-vous faire ?
Marilyn Baldeck ?
Alors, je voudrais peut-être apporter une nuance par rapport à l'idée selon laquelle le harcèlement sexuel est toujours une réalité qui se passe à l'ombre des regards. Dans certain nombre de nos dossiers, on a du harcèlement sexuel qui est commis par des groupes masculins à l'encontre de femmes isolées ou de groupes de femmes. On a eu un dossier assez emblématique récemment où ça se passait dans une salle de rédaction d'un journal. Donc, du coup, toutes les femmes y étaient exposées, toutes les journalistes. Donc, ça se passait devant tout le monde. Donc, le journal a été condamné par le conseil de prud'homme de Tours. Sur la preuve, je pense que vous devez confondre avec l'aménagement de la charge de la preuve qui prévaut non pas en matière pénale, mais en matière sociale, donc en droit du travail, où en effet, c'est à au salarié et, en toute hypothèse, à la salariée d'apporter des éléments qui laissent présumer l'existence du harcèlement sexuel, charge à l'employeur d'apporter la preuve contraire, de dire que ça n'est pas du harcèlement sexuel ou que la sanction qu'il a prise à l'encontre de celle qui a dénoncé du harcèlement sexuel n'a rien à voir avec le fait qu'elle a subi, refusé de subir, témoigné ou relaté des agissements de harcèlement sexuel. Donc, en effet, en matière de droit du travail, il y a une technique de preuve qui est d'ailleurs pas toujours très bien maîtrisée par les avocats, qui est excessivement importante parce que c'est ce qui fait que il y a eu un changement du paysage du droit social en matière de harcèlement et notamment de harcèlement sexuel, et qui fait que depuis qu'elle est correctement appliquée par les juridictions, c'est assez récent, on a de bien meilleurs résultats devant les juridictions sociales et que pour les procédures que nous avons à connaître à l'association, finalement, devant la cour d'appel, nous les gagnons dans 80% des cas.
Alors, je crois qu'effectivement, j'ai dû confondre les droits sociaux et droits pénal sur cette question, Laurent Gamet.
Oui, ce qui vient d'être dit est tout à fait juste sur l'aménagement de la charge de la preuve quand la victime se plaint d'un harcèlement sexuel, avec le pendant que je viens de vous expliquer, qui est que lorsque l'employeur licencie le harceleur sexuel, il ne bénéficie pas de cet aménagement de la charge de la preuve, et c'est à lui d'apporter la preuve. Et donc l'employeur a de fortes chances de perdre son procès du fait d'avoir licencié le harceleur, tandis que la victime de harcèlement gagnera son procès à partir des mêmes faits. Quelque chose qui me paraît là aussi surprenant.
Je reviens à une question que j'évoquais aussi en tout début d'émission sur le délai de prescription. Alors là, on revient au pénal. Il y a eu une proposition de loi, je trouve que c'est un hasard, mais qui a été adoptée il y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale, en faveur d'un allongement du délai de prescription en matière de harcèlement sexuel. Ce serait plus 3 ans, mais 6 ans. La ministre du Droit des Femmes a fait savoir là ces dernières heures qu'elle y était favorable. Et elle appelle les sénateurs d'ailleurs à voter de la même manière que l'on fait les députés. Ça changerait beaucoup de choses, Audrey d'Arsonville. Ça éclaircirait un petit peu ce magma législatif.
Le texte a été voté à l'Assemblée nationale, il est en attente devant le Sénat. Simplement, le délai serait rallongé pour tous les délits. Ça n'est pas propre au harcèlement sexuel. C'est un texte qui a vocation à allonger le délai de prescription de 3 à 6 ans pour les délits. Alors moi, je suis extrêmement mesurée sur le rallongement de la prescription de l'action publique parce que plus les délais sont lointains, enfin plus les délais sont longs, pardon, et plus la procédure est enclenchée tardivement par rapport aux faits, et plus la preuve est difficile. Et on voit que les procédures qui sont intentées assez tardivement ont très peu de chances de dépasser le classement sans suite, faute de preuves.
Oui, mais du coup, il y a quelque chose d'insoluble, parce que vous dites à la fois c'est extrêmement compliqué de prendre la parole, oui, et ça prend du temps.
Mais c'est pour ça que je disais, en revanche, effectivement, passer de 3 à 6 ans pour les délais, ça me paraît un rallongement qui est extrêmement raisonnable et pour lequel on ne peut être que favorable, parce qu'on reste dans des délais qui sont quand même encore très raisonnables pour une procédure pénale.
Cet allongement des délais de prescription, c'est quelque chose que vous défendez, Marilyn Baldeck, à l'Association contre les violences faites aux femmes au travail ?
Je crois que sur cette question, en réalité, on est favorable à l'existence même de la prescription pénale, et donc du fait que, au bout d'un certain temps, le droit garantit l'impunité de personnes qui ont commis des infractions. Soit, au contraire, on estime que c'est un facteur d'impunité que de permettre à des personnes qui ont à des personnes de se dire que s'ils commettent une infraction, au bout d'un certain temps, le droit leur garantiront cette impunité. Donc c'est vraiment une question philosophique, hein, de philosophie du droit, ce qui fait qu'à l'association, nous sommes plutôt favorables à l'imprescriptibilité des crimes et des délits sexuels. Voilà, c'est vraiment une position de principe. Ça ne veut pas dire, je ne pense pas que ça entraînerait des plaintes extrêmement tardives. Je ne suis pas sûre que celle qui n'avait pas porté plainte dans le délai de prescription de 3 ans porterait plainte dans le délai de prescription de 3 ans et au-delà. Mais en tout cas,
elle se sentirait autorisée à en parler, peut-être davantage.
Moi, je vois plutôt les choses du côté des infracteurs, c'est-à-dire que quels sont les moyens qu'on a pour lutter contre le sentiment d'impunité de ceux et celles, parfois, qui commettent des infractions. C'est aussi le fait qu'au bout d'un moment, on ne leur permette plus de penser que le temps est une ardoise magique. Voilà. Par ailleurs, en matière de viol notamment, on sait qu'il y a des techniques de police scientifique qui ont énormément évolué, qui permettent de retrouver des indices et des preuves matérielles qu'on ne pouvait pas retrouver auparavant, et qui permettent d'établir la preuve. Il y a eu un gros procès à Paris récemment là, sur des faits qui étaient vieux de 35 ans et avec une condamnation pénale.
Juste un mot pour conclure, Laurent Gamet, sur cette idée d'une imprescriptibilité. J'allais chuter à la fin.
Peut-être que l'avantage que l'on peut y voir, c'est de permettre l'accumulation de témoignages qui donne la force à chacun de ces témoignages. Mais peut-être qu'il ne faut pas non plus se concentrer que sur le droit. C'est-à-dire que la sanction n'est pas que juridique. Et on le voit dans l'affaire que vous évoquiez, Denis Baupin, je crois qu'il est déjà puni par le tribunal de l'opinion. Et pareil aussi dans l'entreprise, quand on voit que la personne, elle part parce qu'elle était punie du fait de son comportement de harcèlement sexuel, ce sont des sanctions que le droit ne doit pas négliger. Le droit ne peut pas tout, et la sanction, elle est peut-être efficace, mais rien n'est plus efficace que la formation en amont. D'aller expliquer les situations, et ça, les formateurs savent très très bien le faire, et il n'y a rien de mieux que de prendre l'exemple de la fille que chacun peut avoir pour expliquer si ça arrivait à votre fille.
Eh bien, merci pour cette conclusion et merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion. Laurent Gamet, Audrey Darsonville et Marilyn Baldeck. Discussion que vous pouvez poursuivre sur notre site comme chaque soir, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Edouard Rubinstein. Demain, peut-on mettre la spiritualité à toutes les sauces? Ce sera la question posée à 18h20.